peut répondre. Et puis, concernant les dépendances,
je pense qu'on a tous voulu vraiment savoir si sont venus les gars.
Voilà, ça c'est la question récurrente. Aujourd'hui, très sincèrement, je ne sais pas. Ça fait 7 ans maintenant que le film a été fait. Et en tout cas, les personnages du film, donc Alex, Corinne et Eric, les dernières nouvelles que j'ai eues, il y a 3 ans. Donc ils continuaient à essayer de s'en sortir. Et pour les autres qui n'ont pas été filmés,
on entend rien à ce que tu dis, Richard.
Je répète ou...
Non.
Donc, voilà, en gros, les personnages du film, j'ai pas plus de nouvelles aujourd'hui, mais c'était pas très fameux il y a 2 ans. Et pour les autres résidents, puisqu'ils étaient 12 dans cette cure, donc c'était plutôt politique. Hein. C'était bon, pas de chiffres aujourd'hui. Sachant que grosso modo, le pourcentage en tout cas sur les postes cures, c'est à peu près 30%, ce qui correspond à la moyenne nationale de notre centre. Après vouloir à long terme, là-dessus peut-être tu peux répondre.
Je pense que je vais rebondir. D'abord, je vais me présenter un peu plus peut-être. Donc en fait, on travaille dans une association s'occupe d'aider les usagers de drogue dans le sud d'Aix-en-Seine, 92. Donc sur des fonctions un peu différentes, en ce qui me concerne, je coordonne le programme d'échange de seringues. Donc quelque part, on est très en amont de ce qu'on a vu là, de la post-cure, puisque nous, on rencontre les usagers dans un but de réduction des risques. C'est-à-dire, si tu consommes, fais-le avec du matériel propre, avec du matériel stérile, afin d'éviter d'attraper le sida ou l'hépatite ou les transmettre. Maintenant, c'est sûr que sur les années, on peut voir des gens passer en cure, en post-cure et revenir. C'est vrai qu'il y a toute une partie, comme tu disais Richard, il y a toute une partie des usagers qui circulent et même après une post-cure continuent à consommer. Et ça, c'est vrai, moi, ce qui me paraît important, notamment dans le film, là, ce qui est bien montré, c'est cette notion de liberté aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un d'arrêter de prendre des produits. De toute façon, on est dans un monde de tentation, il y a des produits partout. Et peut-être, si plus à réfléchir, c'est la relation qu'on a avec. Là-dessus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le rapport au sport. C'est-à-dire qu'on le voit bien avec, je crois que c'est Corinne, la sortie. Ouais. C'est-à-dire que quand elle parle du sport, j'ai pris quelques notes pendant le... quand elle jouait avant, à un moment, elle dit « je me battais contre moi-même », à un moment,
j'ai perdu.
Et d'ailleurs, elle a perdu, en effet. Et finalement, là, elle se retrouve, hop, et on fait du sport. Alors, peut-être que le sport, c'est là aussi comme la drogue. Il n'y a pas le sport et il n'y a pas la drogue. Il y a le rapport qu'on a avec. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est que là, il y a la notion de groupe qu'on retrouve. C'est-à-dire qu'elle ne se bat pas contre elle-même, ils sont ensemble déjà. D'ailleurs, c'est super excellent de les voir en train de discuter, d'élaborer. Je pense que ça, c'est super sain de réfléchir par rapport au rapport qu'ils ont avec, à l'épuisement. Un épuisement qu'on retrouve aussi dans la consommation, de toute façon. Et donc, de laisser cette liberté, ce temps d'élaboration qui est différent chez tout le monde du rapport qu'on a avec les produits. Et là, voilà, je trouve que ça montre bien ça dans ce film.
Ouais, donc, moi je vais me présenter, donc Denis Bedavska, je travaille de la même association qu'Alexandre, mais plutôt à destination des jeunes, donc un public adolescent et jeunes adultes, dans un premier temps sur des messages plutôt de prévention et après sur de l'accompagnement d'aide à l'arrêt. Et sinon on travaille tous les deux aussi dans le milieu festif techno, donc avec la mission Rêve des médecins du monde. Donc là on en détaillera un petit peu tout à l'heure toutes les actions qui sont mises en place dans le milieu techno. On parlera peut-être un peu des produits consommés, tout dépend après des interrogations que vous avez. Et puis on fera peut-être aussi des explications un peu sur l'état actuel par rapport à la toxicomanie actuelle en France.
Je vais demander, ce que vivent les personnages, là, ça s'appelle une post-cure. Et ils ont l'air tout de même encore très très dépendants, enfin très dedans. Alors qu'est-ce que c'est que la cure et est-ce qu'on peut se passer d'une post-cure?
C'est une bonne question.
Bon, ça, c'est une bonne question. Ouais. Moi, j'ai travaillé pas mal de temps en centre de soins spécialisé pour toxicomanes. Donc, c'est vrai que les personnes, elles arrivent avec une demande. La première demande, ça va être l'arrêt du produit. Donc, schématiquement, ils rencontrent un médecin qui leur prescrit, en fonction de leur consommation, soit méthadone, soit subutex. Donc, ça, c'est des médicaments de substitution pour tous les opiacés. Donc, héroïne, spénant, oscontin, et surtout héroïne, on va dire. Opium un petit peu pour certains. Après, il y a une prise en charge sociale. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de cure. Il y a la post-cure. En fait, il n'y a que l'appellation post-cure. On n'a pas de cure en tant que tel. Après, certains centres travaillent avec ce qu'on appelle des lits de sevrage, ce qui permet d'isoler la personne pendant une semaine ou 15 jours de son milieu, de lui faire accepter son traitement, qu'elle puisse s'habituer aussi. Et l'idée, c'est de travailler avec elle souvent sur un départ, soit sur une post-cure, soit sur plutôt un parcours d'insertion. Après, tout dépend de la personne, de ses envies, et aussi de la dépendance, de son niveau de dépendance. Que quelqu'un qui va arriver sur un début de consommation, c'est vrai qu'il n'aura peut-être pas besoin de faire tout le parcours post-cure, repasser en centre de soins, renouveau post-cure, ainsi de suite. Et c'est vrai que le mot cure n'existe pas pour l'instant. Vu les orientations actuelles, on n'est pas prêt de s'orienter non plus vers ça, à savoir qu'il y a beaucoup de post-cure, notamment Valchalet, qui a fermé. Ils ont en fait enlevé pas mal de subventions. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça, ça a été fait de manière, on va dire, assez subtile. Quand un lit n'était pas occupé, c'était considéré comme un lit qui était inutile, donc un lit fermé. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de post-cure qui ont fermé. En région parisienne, il y en a beaucoup qui ont fermé ou qui ont réduit les effectifs. Et pour l'orientation des personnes, maintenant, on est sur des délais qui sont, je dirais, de 2 à 3 mois à partir du moment où il a formulé la demande. Donc, c'est là qu'il faudrait mettre entre les deux, qu'il faudrait mettre la cure, mais pour l'instant, il n'y a aucune structure qui existe à ce niveau-là.
Je vous pose une question. Comment tu peux appeler une structure comme Marmottan?
Marmottan, c'est plutôt un lieu de sevrage.
Ouais.
Mais ils ne sont pas l'appellation de cure. Il n'y a aucune appellation officielle pour les cures. Ils font du sevrage sur du plus ou moins long terme. Ouais. Ils n'ont pas l'appellation cure.
Mais ça peut-être, on peut distinguer aussi le sevrage de la substitution. C'est-à-dire que dans l'accompagnement à l'arrêt des produits, donc là on parle des opiacés, puisque c'est ceux où il y a une dépendance physique, donc comme des limites qui est héroïne, on peut voir avec l'usager globalement s'il souhaite arrêter, soit lui passer un traitement de substitution, donc un médicament qui va remplacer le produit pour éviter le manque physique, soit directement passer par un sevrage, donc c'est-à-dire un arrêt de tout produit. Alors, ce qui se passe actuellement aussi, c'est que là, sur ce qu'on appelle les post-cures, on est sur une idée plutôt de continuer la substitution en envisageant l'arrêt. Là, d'ailleurs, Subutex, Méthadone, c'est des mots qu'on entend dans le film. Et actuellement, ce qui est nettement mis en avant par le gouvernement et par la MIF, qui est la mission interministérielle contre la drogue et la toxicomanie, c'est ce qu'on appelle des communautés thérapeutiques. Et là, le concept, c'est plutôt le sevrage, c'est-à-dire qu'on fait partir des gens loin d'endroits où ils consommaient avant, et on arrête tout, en espérant que quand ils ressortent, ils ne consomment pas. J'entends.
Avec un suivi aussi, ou
l'idée est un peu la même de travailler en groupe, mais c'était censé être la nouveauté qu'ils apportaient en disant on fait des communautés thérapeutiques, il va y avoir un groupe, et là on voit personne dans le film que justement son groupe elle est super forte. Le choix par exemple de savoir si Eric revient ou non, c'est le groupe qui prend la décision.
Donc on a sabré ce principe de...
Il y a de moins en moins de post-cures, et là on tend vers plutôt des communautés thérapeutiques avec donc un sevrage. Maintenant, pour l'instant, j'aurais pas assez de recul pour dire lequel des deux est le plus efficace. Mais potentiellement, je pense que la notion de choix et la substitution permet un travail sur la consommation qui ne sera pas forcément dans le sevrage. À mesure où on dit, voilà, tu prends plus rien, tu vas passer 3 mois, 6 mois loin, puis après, tu reviens chez toi, dans ta vie, et tu continues à rien prendre. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien, mais l'avenir nous le dira.
Ça a déjà été testé, c'est-à-dire que ce genre de... Si on prend pas de et les échecs énormes, en tout cas, un pourcentage plutôt
organisme, une structure, oui, comme le patriarche, donc c'est existé depuis. C'est une des premières structures qui a été créée donc, à l'issue de la loi de 70, donc, qui gère un peu toutes les toxicomanies en France. Et c'était une structure où les gens arrivaient sur une idée donc, plus de consommation et surtout sur l'idée de travailler toute la journée pour s'épuiser et pour, une fois fatigué, bah, le soir on s'endort, donc, du coup on a la tête vidée, on ne pense plus à rien. Ce qui s'est passé, c'est que bon, sur le principe, ça peut se comprendre, il y a des personnes pour qui ça a fonctionné, pour qui ça a pas mal marché. Il y avait très peu d'encadrement professionnel, c'était après les anciens qui prenaient les nouveaux, donc après un système de parrainage. Et le gros problème qui s'est posé, c'est que le fondateur de ces structures, en fait, ne rémunérait pas les personnes de leur travail, mais lui se faisait rémunérer par rapport à leur travail. Et donc lui, s'est enrichi très très fortement, c'est une des grosses richesses mondiales actuelles. Il est planqué quelque part dans une île, et c'est vrai que sur un délai de 30 ans, il a pris quand même pas mal d'argent qui aurait pu servir à d'autres choses. Et c'est vrai que des essais un peu sectaires de ce type-là, il y en a eu quand même pas mal. Et c'est vrai que c'est pour ça un peu que l'État maintenant commence à regarder vraiment ce qui se passe par rapport à tout ça. Avec un contrôle et qui demande aussi bah, des équipes aussi bien médicales que sociales que psychologiques.
C'est des structures associatives qui gèrent l'accompagnement comme ça.
Il y en a des associatives et des hospitalières aussi.
Donc des fois c'est des antennes, et c'est une question, ça marche pareil pour le problème de l'alcoolisme.
Pour l'alcool, les structures ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est toujours le même principe avec bah, cure. Par contre là ils existent cure, post-cure, et l'idée c'est vraiment bah, de fournir quelque chose à la personne pendant la journée. Parce que pour reprendre l'exemple de quelqu'un qui rentre en traitement de substitution, par exemple sur la méthadone, donc quelqu'un qui prend des opiacés, sa journée, bon c'est schématique, sa journée ça va être réglé entre trouver de l'argent, trouver du produit, s'injecter et ainsi de suite. Bon ça c'est vraiment schématique, après c'est vraiment cas par cas. Mais c'est vrai que quand quelqu'un prend de la méthadone elle a un pouvoir d'action au niveau du corps qui dure à peu près entre 20 et 24 heures, voire un peu plus en fonction du métabolisme des gens. Et c'est vrai que si le gars vient, mettons à 8h à l'hôpital, qui prend sa méthadone, ça prend 3 secondes. Si on ne lui donne rien à faire pendant les 23h50 qui restent, ça s'installe l'ennui. Et là, ce qu'on voit, c'est sur les jeunes qui sont consommateurs de produits. La principale cause de la consommation, on va dire, abusive et nocive, entre guillemets, des produits, ça va être toujours un facteur d'ennui. Donc c'est vrai que l'idée, c'est au moins bah, faire des choses avec ces gens. C'est pour ça que le social est rentré aussi dans les hôpitaux. Par rapport à ça, ne serait-ce que faire les démarches d'insertion, rechercher des logements, ou faire simplement, ça peut être des activités, ou tout un tas de choses.
Quelle est la critique pour les banques
de l'âge critique? Ouais. Donc après, il n'y a pas forcément d'âge, c'est plutôt lié en fonction du nombre d'années de consommation. L'âge, sur les statistiques, en fait, c'est première cigarette, premier alcool, c'est vers 12 ans. Parce qu'en fait, quand on parle de drogue, c'est qu'on n'a pas précisé, on parle aussi bien des produits qui ont un statut légal que des produits qui sont illégaux. En fait, on travaille sur... le rapport des personnes avec un produit et pas avec un produit en particulier. Donc 12 ans, c'est la première initiation, alcool, tabac. Le cannabis arrive souvent assez vite. Maintenant, on est à peu près à la fin du collège avec pas mal de personnes, moins de jeunes qui ont essayé. Et c'est à l'adolescence que se font à peu près des premières consommations. Après, des produits type cocaïne, héroïne, c'est plutôt sur ce qu'on voit actuellement, des gens qui sont plus vieux, qui sont en fin d'adolescence et début d'âge adulte. Sur le début des premières consommations. Et après, ça ne veut pas dire non plus que ces personnes vont devenir dépendantes. Des gens qui peuvent consommer pendant un temps sans forcément après rentrer dans toute la procédure de soins qu'on vient d'écrire.
L'héroïne est une genre d'embaisse, on pense. On doit être super optimiste, quoi.
Alors, a priori, je dois dire oui, l'injection d'héroïne, certainement. Parce qu'il y a par contre une augmentation de l'injection de cocaïne. Mais ça, après, il y a plusieurs facteurs, et notamment la substitution dont on parlait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien prendre en compte que
Là, on le voit pas trop, parce que dans le film, quoique, je suis en train d'y réfléchir, avec Eric, peut-être, qui est substitué, donc qui va ressortir et qui dit « Ouais, je vais prendre du cannabis, ça c'est sûr, je vais pas shooter. » Alex qui est Alex est Rivotril et méthadone, il prend de la cocaïne. Alors après, c'est vrai que l'intérêt d'un traitement de substitution pour un usager, ça peut être de ne pas être en manque, voilà, d'avoir une vie sociale complètement. Mais comme moi, ce que je rencontre sur le train de change de sein, qui sont substitués et une fois de temps en temps de se faire une embellie, terme consacré. On pourrait s'acheter un gramme et shooter un peu d'héro dans la mesure où il y a le traitement de substitution le reste du temps. Voilà, c'est une possibilité. Maintenant, c'est vrai que la balance, c'est vraiment, je pense, que entre héroïne et cocaïne. Et,
par rapport aux années 80, c'était une drogue extrêmement
plus répandue.
Aujourd'hui, c'est quand même héroïne en baisse.
Absolument, on n'est plus sur la French Connection, à Marseille.
Et après, il y a un peu des demandes aussi sociales, en fait, les produits utilisés, je dirais, correspondent un peu à la société dans laquelle on vit. Et c'est vrai que là, on est plutôt sur des consommations de produits stimulants, du moins plutôt des stimulants. Sur, moi, j'ai un exemple, un jeune que je voyais il y a 2-3 ans, qui était commercial. Et c'est vrai qu'il avait un tel rythme de travail, donc au début, ils m'ont dit, bah, si tu n'arrives pas à tenir la puissance, tu prends plus ce café, après tu prends de la guarana. Donc guarana, c'est de la caféine concentrée. Après, bah, très rapidement, il est arrivé à la cocaïne. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'arrivait plus à s'endormir le soir. Donc ses collègues lui disaient, bah, c'est simple, pour dormir, tu prends un opiacé, ça va t'apaiser, tu vas arriver à dormir. Et du coup, comme on est dans une société qui est quand même vachement basée sur bah, les performances des gens et d'amener les gens à faire plus que ce qu'ils pourraient faire, c'est vrai qu'on est plus sur des produits qui vont être de cet ordre-là, qui vont permettre de tenir le coup. Et aussi, bon, après, sur le milieu festif, c'est vrai qu'on a pas mal de produits stimulants qui sont utilisés. Mais si on regarde aussi les consommations, on a quand même pas mal depuis, je dirais, un an ou deux, un retour de produits plutôt sédatifs.
Notamment pour les descentes, c'est-à-dire que voilà, la semaine prochaine, il y a quelques balles, je ne sais pas si on a entendu parler de Premier, toujours, un bon rassemblement de clous, plusieurs fois par an. Mais c'est vrai qu'il y a une partie des gens qui viennent, qui prennent vachement du ski, de l'amphétamine, etc. Et au bout de 5 jours, on prend ça, quelque part, pour redescendre. Pour ralentir la l'injection, c'est vrai que ça se fait, ça arrive, parce que ça veut dire mais de prendre de l'héroïne. Maintenant, l'injection est très stigmatisée, c'est plus par sniff,
c'est vrai que sur le milieu festif, avant ça a été produit, donc les produits de descente, on les voyait arriver plutôt en fin de Technival ou en fin de teuf, donc plutôt à la fin du week-end, et là on commence à en voir aussi bah, dès les premiers jours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent et c'est leur produit pour faire la fête.
Et le crack ?
Le crack. Donc le crack, c'est un dérivé de la cocaïne. Donc le crack, c'est consommé quand même de manière, on va dire, assez importante. C'est assez localisé, surtout en région parisienne. Et bah, pour faire un peu le rapprochement, donc il y a une dépendance qui peut être relativement forte avec le crack. Il y a surtout l'effet, c'est que c'est un produit qui va faire monter, par rapport aux effets de la cocaïne, si on faisait une courbe, c'est un produit qui va avoir des effets beaucoup plus puissants que la cocaïne, qui sont quasiment similaires. Et ce qu'il y a, c'est que plus les effets sont hauts, bah, plus la descente est profonde. Et la descente entraîne souvent bah, une phase un peu de déprime, dépression. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les consommateurs de crack, ils vont avoir tendance à en reprendre pour ne pas franchir cette descente, pour ne pas être dans la déprime. Donc c'est vrai qu'on peut arriver à trouver des gens qui vont consommer énormément sur un mois ou deux, qui vont consommer énormément de crack. Et souvent, bah, les arrêts, ça va être souvent les arrêts judiciaires quand même. Après, il y a bon, les raisons sociales et les raisons financières qui peuvent emmener à l'arrêt. Après, le crack, il est assimilé aussi à un autre produit, parce que le crack, c'est une image un peu péjorative. Dans l'idée des gens, c'est, quand on parle du cracker, ça va être plutôt... les personnes qu'on voit totalement marginalisées qui traînent dans certains quartiers de Paris. Donc pour ne pas avoir cette image, en fait, nous, ce qu'on voit dans le jeu techno, c'est qu'il y a eu l'apparition du freebase. Donc exactement le même produit que le crack. C'est le mode de fabrication qui va changer. Sauf que dans la tête des usagers, c'est non, je ne suis pas un cracker, moi je prends que du freebase. Alors que les risques sanitaires sont les mêmes et aussi au niveau social, c'est les mêmes dangers.
Ce qui est important à noter, c'est que c'est un dérivé de cocaïne, il n'y a pas de dépendance physique. a priori, un produit comme ça. Mais c'est là aussi que c'est important de préciser la distinction entre dépenses physiques et psychologiques, puisque aujourd'hui on voit bien que le plus dur à gérer, c'est bien au niveau psychologique. C'est-à-dire qu'en dépenses physiques, on peut donner un traitement de substitution, comme avec le tabac, on voit bien que mettre un patch ou mâcher une gomme à nicotine, finalement, gérer la dépense physique, en soi, c'est pas difficile. C'est plus compliqué quand on arrête de fumer du tabac. C'est beaucoup plus d'arrêter le geste, d'arrêter d'avoir envie d'en prendre une. Mais c'est pas biologique. Et là, avec la cocaïne, on est sur la même chose. Et toujours chez Strax, c'est toujours cette notion de craving, cette envie énorme d'en reprendre et de se dire, dès qu'on a commencé à en fumer, j'ai envie d'en prendre plus. Que le crack, ce qui fait qu'il y a un effet aussi puissant par rapport à la cocaïne, c'est le fait de le fumer, parce que ça arrive très vite, ça passe très rapidement à la barrière hématoencéphalique, c'est-à-dire que ça accède au cerveau très rapidement, et une notion de flash très importante.
Il y en a qui ont fait fort un effet d'appuyance psychique.
Complètement, oui.
Je suis confondue à Denis concernant la réduction de la boîte 70.
D'accord. Donc, comme je disais, en fait, la loi qui s'occupe des stupéfiants, en fait, on va dire en France, c'est la loi de 70. Donc, elle a été votée le 31 décembre 70. Vous verrez après, bon, chacun en pense ce qu'il en veut. L'historique de cette loi, c'est que on est dans un contexte, on est post-mai 68. On est aussi en parallèle avec un peu l'arrivée du nouveau hippie en France. Et donc avec des consommations de produits. Dans l'été qui a précédé, donc dans l'été 70, il y a eu des décès sur la Côte d'Azur par overdose. Deux jeunes issus de, on va dire, de milieux assez respectables. Et l'idée du gouvernement à l'époque, c'était de dire qu'il faut protéger notre jeunesse contre cette invasion de la drogue. Parce que l'idée, c'était à l'époque qu'un cocaïnomane, c'était comme quelqu'un qui était malade, qui pouvait contaminer les autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui prenait une drogue, s'il passait une soirée avec 10 copains qui l'initiaient à cette drogue, bah, le lendemain, les 10 copains, ils allaient en contaminer 10 chacun. Donc là, on parlait d'épidémie et de plus en plus, vraiment ça, comme une épidémie qu'on ne pouvait pas gérer. Donc ils ont voté une loi qui s'est voulue assez répressive, à savoir que pour les consommateurs, il y a un risque jusqu'à un an de prison et 3 500 € d'amende. Et ça peut monter jusqu'à 20 ans pour la culture et la production et le trafic international. Avec des peines d'amende qui sont en millions, du moins en milliers d'euros, qui sont exorbitantes. Cette loi, l'avantage qu'elle a permis, c'est qu'elle a quand même prévu une mesure qu'on appelle l'injonction thérapeutique, donc qui était notamment destinée à des consommateurs qui se faisaient prendre une ou deux fois. Et plutôt que de les incarcérer, on leur proposait de rentrer dans un programme de soins. Donc souvent, ça, c'est ce qui avait été choisi. Cette loi 70, donc, qui punit quand même l'usage, elle ne fait pas la distinction entre tous les produits. C'est-à-dire que sur cette loi, on a la même loi pour une consommation de cannabis que pour une consommation d'héroïne. Donc cette loi n'a jamais été révisée. Il y a eu des amendements qui ont été faits petit à petit. Et là, ce qu'on voit actuellement, c'est que donc, le dernier gouvernement avait proposé une révision de cette loi en disant bah, s'il y a tant de jeunes qui fument du cannabis en France, donc sur des chiffres, à 17 ans, il y a 50% des ados qui ont fumé une fois à juin. Après, ils ne sont pas tous dans des consommations quotidiennes, on baisse à peu près 30%. Mais ça fait quand même, en rapport par rapport à la société, ça fait quand même un nombre de personnes important. Donc l'idée du gouvernement, c'était bah, si les jeunes, du moins si il y a tant de consommateurs de cannabis, c'est qu'on ne peut pas appliquer la loi. Donc le ministre de l'Intérieur avait proposé de faire un système d'amende. C'est-à-dire un système d'amende systématique, donc un carnet à souche, des amendes qui pouvaient monter jusqu'à 150 €. Et c'est-à-dire qu'un bah, jeune, je ne sais pas, il sort du métro, il s'allume un joint, il se fait contrôler par la police, il lui enlève son joint, il lui met une amende. Entre midi et deux, il fume dans un parc avec ses potes, il se fait contrôler, il met une amende. Et à la fin de la journée, on est à des amendes de 600-700 €. Que forcément quelqu'un qui ne travaille pas, donc quelqu'un qui travaille ne peut pas payer. Donc ces propositions de révision, bah, elles ont été refusées par le gouvernement. Donc ce qui s'est passé, c'est que bah, le ministre de l'Intérieur a dit, bon, dans ces cas-là, quand vous ne voulez pas modifier cette loi, on va l'appliquer. Et là, depuis 2004, on est à 18% d'incarcération en plus sur des consommateurs. Et quand on regarde les chiffres, c'est des consommateurs qui sont relativement jeunes, entre 16 et 25 ans, et essentiellement sur des consommations de cannabis. Donc c'est vrai que c'est un peu... Et puis quand on discute avec les jeunes, c'est vrai qu'ils ont conscience de la loi, Mais ce qu'ils disent, c'est que de toute façon, pour consommer du cannabis en France, on ne risque pas grand-chose. Quand ils sont contrôlés par la police, ils ne savent jamais si les policiers gardent le cannabis pour le fumer eux. Ça, c'est le discours. S'ils nous prennent, ils le gardent pour eux. Et c'est vrai que quand il n'y a aucune... Il n'y a rien qui va être vraiment fait devant eux, ça fait tout un tas de fantasmes. Et donc, c'est, de toute façon, ils nous arrêtent que pour nous piquer notre shit. Et après, ils le fument, et s'ils nous arrêtent deux, trois fois, des fois, ils nous le rendent parce qu'on est sympa avec eux. Donc, c'est vrai qu'il y avait un gros flou par rapport à ça. Cette loi, ils l'ont renforcée en 2003 avec la loi Guesso qui concerne tous les contrôles de stupéfiants donc, sur les accidents de la route. Donc là, il y a un dépistage systématique sur tous les accidents où il y a un décès, qu'on soit responsable ou non de l'accident, tous les accidents matériels graves, et ils ont rajouté une petite clause, c'est tout comportement suspect qui peut faire penser que la personne a fumé. Quand on voit dans les faits les comportements suspects sur les mesures qu'on a actuellement, c'est souvent une voiture avec 4 ou 5 jeunes dedans, avec un paquet de feuilles qui va traîner sur le tableau de bord, des jeunes qui roulent peut-être pas très droit, ça peut être... Là, ils mettent derrière, ils mettent ce qu'ils veulent. Et cette loi, en fait, elle punit de 2 ans de prison pour un dépistage positif au cannabis, plus 4 500 euros d'amende. Le tout multiplié par 2 s'il y a plus de 0,5 au niveau de l'alcool. Et là où ça pose un problème, c'est que c'est qu'elle fonctionne essentiellement sur un dépistage urinaire. À savoir que le cannabis, les effets du cannabis, en fonction des quantités consommées, ça va durer entre 6 et 10 heures, c'est-à-dire 12 heures maximum, alors que le dépistage peut être entre 30 et 60 jours dans les urines. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple dans le bar à côté, ça fume des joints, tout ça, chacun fait ce qu'il veut. Vous respirez le truc, quelqu'un fume un peu dans la soirée, il passe sa soirée à fumer. Le lendemain, il rentre chez lui, il n'y a pas de problème. 2 jours après, il a un accident de voiture, il est positif, et là, la loi s'applique. Et il n'y a pas... Le dépistage urinaire, nous permet de faire des dosages. On sait qu'à partir d'un certain dosage, les molécules du cannabis sont plus nocives par rapport à la conduite, mais ça, c'est pas prêt. En fait, c'est un peu une loi qui est faite aussi pour repérer les consommateurs et pour arrêter les consommateurs.
De toute façon, cette loi, elle sert à faire des statistiques depuis des années, en fait. On voit bien quand Sarkozy a besoin d'émeutes. Comme par hasard, il n'y avait plus rien à fumer dans les banlieues depuis plusieurs mois, quand les bagnoles se sont mis à cramer. La loi, elle permet de carrément d'installer des climats, de générer des statistiques de criminalité, de les faire gonfler, de les faire baisser à volonté. Parce que si on veut prouver qu'il y a beaucoup de délinquance en France, on va arrêter les petits dealers. Ça qui fait gonfler tout d'un coup le nombre de délits constatés, le nombre de jugements rendus, et ainsi de suite. En fait, les lois sur la toxicomanie, elles servent que... aux politiciens dans ce pays. Elles ne servent pas du tout aux toxicomanes, ni au public, ni à qui que ce soit.
Et puis ça fait baisser le chômage aussi, parce que j'ai mon placard. Hein.
Oui, et le jour, on nous a expliqué que les prisons, c'est vachement rentable. Et aujourd'hui, la pauvreté est super rentable en prison.
Tout le monde a inséré par rapport au fait de criminaliser les usagers, par rapport à la loi de 70, la grande question actuellement, c'est de savoir si on classe comme stupéfiant le Subutex, c'est donc un médicament de substitution, ou non. Alors, c'est questionnant parce que...
L'amour, c'est un grand stupéfiant.
Il faudrait penser à l'amour qui nous repousse en général. Et c'est vrai qu'il y a un trafic de Subutex, comme il y a un trafic d'énormément de médicaments. À peu près, ça a été quantifié, notamment en Ile-de-France, on fait une enquête par la CRAMIF, il y a à peu près 5% des usagers qui ont une Subutex de prescrit qui en font un trafic. Alors c'est vrai que voilà, il y a un mois, j'ai des références, ils ont monté les statistiques. Regardez, lui, il a 267 boîtes dans le mois. C'est vrai que clairement, là, on est sur une notion d'aller vendre les cachets, ça coûte 1,50€, 2€ un cachet de Subutex sur le marché noir. Donc c'est une réalité. Mais maintenant, par rapport au nombre d'usagers qui prennent du Subutex pour prendre ça comme médicament en traitement de substitution, c'est une partie infime, bien 5%. Et là, là-dessus, encore une fois, l'idée, ça va être de criminaliser des usagers, de rendre plus compliqué l'accès aux traitements de substitution par rapport aux médecins, parce que ça va être, est-ce que je décide à prescrire ou non ce traitement. Le pharmacien, pareil, ça va lui donner plus de boulot, des ordonnances plus compliquées à remplir, ainsi de suite. Donc, pour l'instant, ça a été proposé, ça, par la NLDT au ministre de la Santé. Donc, on va voir dans les mois à venir si c'est accepté ou non. Donc, la question.
Est-ce que vous avez des propositions? en fait, qu'est-ce que vous qui êtes confronté, enfin, vous ne vous placez pas comme ça, mais est-ce que vous, vous avez des idées, si tu avais Sarkozy en face de toi, tu dirais quoi?
Je sais que là, d'un point de vue plus bénévole dans notre engagement à Médecins du Monde, la mission rêve des Médecins du Monde, ses représentants ont rencontré Sarkozy dernièrement, notamment par rapport à l'organisation du Capnival. Et une des choses qui a été abordée, c'est notamment la question du testing. Puisque dans notre approche, une pratique qui était légale jusqu'à l'année dernière, qui était celle du testing. Qui n'était pas illégale jusqu'à l'année dernière, qui était donc la possibilité de pouvoir discuter du produit avec un usager en faisant réagir, notamment pour les extasies, pour certaines poudres, en faisant réagir le produit avec un réactif et de pouvoir dire s'il y avait certaines molécules dans le produit, notamment du MDMA, qui est le principe actif des extras. Alors c'est vrai que c'était un moyen très pratique pour discuter avec les consommateurs qui s'inquiètent de savoir si c'est écoute ou non, ce qu'on ne peut pas forcément dire, mais au moins en discuter sur le produit. Et donc ça, en avril l'année dernière, ça a été interdit. Parce que notamment, c'était présomptif, c'est-à-dire qu'en effet, on n'a pas l'analyse totale du produit. On ne sait pas tout ce qu'il y a dedans. Et l'enjeu principal de cette démarche, c'était de pouvoir discuter des risques, de prendre des extras, de savoir qu'il y en a qui sont coupés, même si ce n'est pas la majorité, mais ça peut arriver, de savoir, de rencontrer quelqu'un qu'on n'a jamais pris, d'avoir un discours pareil de prévention par rapport à ça, c'est-à-dire attention, de prévenir sur les effets, d'expliquer ce que ça fait. Et donc, c'est interdit, et là, je crois que ça a été soulevé. Maintenant, on va voir comment on réagit.
Le testing, en fait, c'est ce qu'on appelle une analyse présomptive, c'est-à-dire que grosso modo, les personnes ont venu dans le camion, donc on a eu des camions ménagers pour faire ça, ils disaient voilà, j'ai acheté tel produit. Donc des gens ont testé, voir si lui connaissait les produits qu'il va prendre. Et ce qui était important, c'est que l'ecstasy, ça fait effet, donc ça souvent sous forme de cachet, on en trouve aussi sous forme de poudre, ça fait effet une fois que c'est digéré. Donc si c'est pas un produit qui contient de l'ecstasy, quand quelqu'un touche sur un pétard, s'il sent que c'est pas du shit ou c'est trop fort pour lui, il le met dans un cendrier, il va avoir mal à la tête, et au pire, c'est la pire situation qu'on peut arriver à trouver. Alors que des gens qui prenaient de l'ecstasy, donc avec des effets qui sont plutôt une recherche d'empathie et de stimulation, il y a des cachets qui étaient hallucinogènes qui étaient vendus pour de l'ecstasy. Donc dans le milieu des rêves parties, souvent, ce qui se passait, bon maintenant, qu'il y en a qui sont légales, c'est vrai que c'est beaucoup plus ciblé, mais avant, si tu en avais rendez-vous vendredi soir quelque part, on reprend le machin, bon, tu verras tel qu'on voit, et ainsi de suite. On se retrouvait donc souvent sur des lieux qui étaient à peu près 300 km autour de la région parisienne, dans des lieux qui n'étaient pas forcément, qu'on n'avait pas repéré le jour, donc c'est soit des vieux hangars, soit des forêts, des choses comme ça, donc des lieux qui ne sont pas forcément rassurants. Et quelqu'un qui prend un cachet en se disant « je vais faire la fête, je vais avoir envie d'aller discuter avec les gens et je vais être stimulé », et s'il se retrouve avec un hallucinogène, ça crée tout ce qu'on appelle des trips ou des accidents psychologiques ou psychiatriques assez graves. Donc l'idée du testing, c'était quand même de pouvoir faire cette prévention. Et aussi, ce qui nous a été reproché à l'époque, on nous appelait les dealers en blouse blanche. Et quand la personne nous donnait son cachet d'ecstasy, nous, le testing, on en gratte un tout petit peu avec un scalpel, on fait réagir, ça prend 10 secondes. Et ce qu'il y a, c'est qu'on lui rendait. Et c'est ce geste-là, en fait, qui a été aussi repéré par la loi et pointé en disant, ben, là, vous donnez de la drogue à quelqu'un. Donc après, on a essayé que ça soit l'usager lui-même qui coupe son truc. Au bout de deux jours Technival, il faut plutôt les doigts que les cachets. C'est vrai qu'on continue à faire cette démarche, mais on s'assure bien que le cachet est posé sur la table au moment de l'entretien, et surtout que la personne le récupère. Par contre, l'entretien durait entre une demi-heure, trois quarts d'heure. La manipulation, ça prend 10 secondes. On lui disait, effectivement, il y a des molécules qui ressemblent à celles que tu recherches. On ne peut pas dire la quantité qui est contenue dans le cachet. On ne peut pas dire les produits de coupe. Et on ne peut pas dire s'il y a d'autres choses avec, on ne va pas dire si c'est fort ou pas fort. Donc le mieux, c'est que tu n'en prennes pas. Si tu décides quand même de le prendre, ben, sache qu'il faut penser à t'alimenter, à te reposer, à boire de l'eau, et ainsi de suite, pas mélanger avec l'alcool. Donc on avait tout un discours comme ça. Et l'idée, c'était après vraiment de faire un discours, du moins un entretien plutôt psycho-éducatif avec ces jeunes-là. Voir comment ils géraient la descente le lundi, parce que c'est bien beau, on prend de l'ecstasy le week-end, mais après, il y a le reste de la semaine. Et l'ecstasy, ça apporte, donc en fonction des consommations, il y a une descente qui apparaît à peu près le mercredi pour quelqu'un qui a consommé le samedi, c'est-à-dire qu'on est au plus bas. Parce que l'ecstasy, en fait, c'est un régulateur au niveau du cerveau pour faire schématique, il met tout à niveau au cerveau, donc les gens se sentent plutôt bien. Et après, bon, ça part au bout de 2-3 jours. Et c'est à ce moment-là, bah, souvent, quand les gens se sentent un peu fatigués, un peu les jambes cassées, soit ils ont envie de reprendre, soit ils ont envie de prendre un autre produit. Après, c'est, pour, c'est le lundi, pour ceux qui ont passé tout le week-end de honteuse, bah, ceux qui ont un boulot, qui ont une famille ou l'école, tout ça, c'est pas forcément évident à gérer. Et nous, l'idée, c'était plutôt, bon, là, tu fais la teuf, ça se passe bien, mais comment toi, tu es dans la semaine? Est-ce que ta copine, t'es pas plus énervée mercredi? Est-ce que t'as pas envie de tout quitter? Est-ce que... Et voir après, mais l'idée, c'était un peu de fidéliser les gens. Et c'est vrai que sur plusieurs années, on voyait des gens qui revenaient nous voir en disant, moi, j'ai testé la dernière fois avec toi, moi, ça se passe comme ça, maintenant, je vais arrêter, tout ça. Donc l'idée, c'est surtout être en lien avec des usagers, leur donner un discours prévention et réduction des risques, et surtout bah, pour que leur teuf se passe le mieux possible. Après que, donc là on est sur une interdiction, on va voir ce qui se passe le 1er mai prochain.
Peut-être voilà. Pour répondre aussi à la question, peut-être directement, en été, je ne pense pas me retrouver face à Sarkozy, même pour ouais, ça pourrait arriver, et après qu'il m'écoute, c'est encore autre chose. Et là, totalement à titre personnel, ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que le vrai problème par rapport aux drogues, c'est pas la drogue en tant que telle, c'est le rapport que les gens ont avec. Finalement, peu importe le produit, c'est ça, dans la pratique, je me rends compte, je parlais tout à l'heure, par exemple, des héroïnomanes qui m'ont substitué, passent à prendre de la coke, ben, finalement, enfin, le produit, ok, il existe, mais c'est le rapport qu'il y a avec qui est important. Par rapport au cannabis, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en France, on est le pays d'Europe où il y a plus de jeunes consommateurs de cannabis. Alors pourtant, on est le pays où la répression est la plus forte. Donc rien que ça, ça je pense que ça pose des questions. Quoi. S'ils veulent que les gens fument plus, ce n'est pas le bon moyen.
Alors,
peut-être une petite chose, on a amené quelques flyers, notamment ceux qu'on peut distribuer en teuf par rapport aux gens qu'on voit, sur les produits et beaucoup par rapport aux fausses représentations. Alors il y en a par exemple justement, est-ce qu'il y a du speed dans les extas, la rablasse c'est quoi, sur la durée des effets, on dit pareil, durée des effets, durée du dépistage aussi, pendant combien de temps on peut dépister tel ou tel produit dans les urines. Donc pour ces choses-là, on peut les mettre,
ouais, on peut les mettre à disposition. Voilà. Après ce qui est délicat, c'est que dans un lieu bah, comme ça, nous on essayait de faire de la prévention dans les clubs et les boîtes de nuit. Les gens nous disaient, bah, non, si vous venez faire de la prévention, ça veut dire qu'il y a des consommateurs à l'intérieur, donc nous on risque une fermeture administrative et des poursuites judiciaires. C'est pour ça que là, Donc les flyers, on va les mettre à disposition par là. C'est vrai que,
Merci.
Merci. Alex, je te remercie.